Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
La verrerie ouvrière est une coopérative ouvrière de production. Elle est administrée par un conseil d'administration formé de 8 administrateurs nommés parmi le personnel. La devise de la coopérative commune, de toutes les coopératives de production en général, est travail, capital, talent.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent. Les
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'événement législatif n'a pas fait un très grand bruit médiatique. Mais sous l'éclairage de l'histoire économique et sociale des deux derniers siècles, il trouve une portée de bonne dimension. Le Sénat a adopté le 8 novembre 2013 le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire présenté par Benoît Hamon, le ministre qui est chargé de ce secteur au gouvernement. Et dans quelques semaines, l'Assemblée s'en saisira pour le faire, sauf surprise, arriver à bon port. Le but est de consacrer et de promouvoir un secteur d'activité qui rassemble aujourd'hui environ 200 000 entreprises, et qui prend la forme d'associations, de mutuelles et de coopératives. Un secteur qui représente 10% en France des emplois, fonctionnaires non compris. Entre le marché public, qui se fonde sur le prélèvement des impôts, et le marché privé, qui s'appuie sur l'investissement du capital, il s'agit d'un marché qui s'organise selon l'association de ses membres en concurrence directe avec le capitalisme ordinaire. Mon invité, Stéphane Gacon, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, y poursuit des recherches sur ce thème qui est développé dans le cadre d'un séminaire important. Nous allons nous demander avec lui si les générosités de sources diverses qui ont inspiré l'essor multiforme de l'économie sociale depuis les débuts du XIXe siècle, avec des succès inégaux mais avec certains aboutissements remarquables, si ces générosités ont une chance de continuer d'apporter parmi les brutalités de notre temps encore quelques lumières spécifiques. Et pour commencer, Michel Rocard, qui s'exprime en 2000.
Ça, c'est une des plus anciennes traditions du mouvement syndical dans le monde et notamment en France. Les coopératives, ça a plus de 200 ans, sinon davantage. Les mutuelles, à peu près autant. Donc nous avons, entre ce qui est nationalisé, qui décroît en volume, et ce qui est purement privé, qui fonctionne pour assurer le profit de ses actionnaires, nous avons tout un secteur dans lequel il y a principalement les coopératives, les mutuelles et celles des associations qui rendent des services à d'autres qu'à leurs membres. C'est-à-dire que je ne compte pas les associations de joueurs de boules, mais je compte la Croix-Rouge, je compte les grandes ONG qui distribuent de l'aide alimentaire, soit en France, soit ailleurs, et qui s'adressent à d'autres qu'à leurs membres et qui ont des transferts économiques. Tout ce monde-là, en France, représente 1,2 million salariés. Tout ce monde-là, dans tous ses aspects, a toujours été constamment créateur d'emplois dans cette période pendant laquelle l'industrie, comme l'agriculture et de plus en plus les services classiques financiers, enfin à dominante financière, lâchaient des emplois, résiliés. Moi, je suis attaché à ce secteur. C'est moi qui lui ai en effet donné le nom d'économie sociale pour créer des interférences entre les trois, parce que les trois n'avaient pas de rapport entre eux. Or, les mutuelles gèrent de l'épargne, donc elles sont riches et elles ont de l'argent à placer. Les coopératives manquent toujours de sous, parce qu'elles n'ont pas accès aux fonds propres, comme les capitalistes. Et donc, je pensais qu'il fallait que les mutuelles placent leur argent plutôt dans les coopératives, en créant une solidarité autour de l'éthique du non-profit. Mais ce sont des structures marchandes, comme on dit, qui vendent et qui font commerce tout à fait normalement. J'y crois beaucoup parce que c'est aussi un apprentissage de l'art de produire dans des conditions démocratiques.
Stéphane Gacon, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'entendre avec nous un propos de Michel Rocard, un entretien avec Jean Lebrun dans Pot-au-feu sur France Culture le 20 juin 2000. Et il m'a paru ramasser assez bien les composantes de l'économie sociale et de l'économie solidaire, avec tout de même une surprise. C'est vraiment lui qui a inventé l'expression d'économie sociale ?
Je pense qu'il s'attribue peut-être un mérite qui n'est pas complètement le sien. En réalité,
c'est gentiment dit.
En réalité, le terme est apparu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et je pense qu'on peut attribuer la paternité à Frédéric Le Play, le grand polytechnicien, ingénieur des mines bien connu, qui a été l'incarnation de ce qu'on a pu appeler la rénovation de la science sociale, ou l'invention de la science sociale. On le place parfois comme un des inventeurs de la sociologie moderne, au sens où il a lancé une grande enquête qui a commencé à être publiée en 1855 sur les ouvriers européens.
Regardez les choses réelles au-delà des doctrines.
Regardez les choses au-delà des doctrines. Frédéric Le Play appartient à ce courant de pensée qui est un courant que l'on qualifie souvent de catholicisme social, c'est-à-dire il appartient à ces élites sociales qui, au XIXe siècle, s'inquiètent des conséquences de l'industrialisation et en particulier de ce qu'on a appelé depuis les années 1830-1840 la paupérisation, dans le sillage, vous savez, des grandes enquêtes et en particulier celle du docteur Villermé qui est très célèbre. Ces élites sociales cherchent des solutions à cette paupérisation et craignent par-dessus tout, sans doute, la lutte des classes, l'affrontement des classes, et ils cherchent la paix sociale.
Économie sociale d'un côté, qui est héritée du 19e siècle, qui évoque les coopératives, les mutuelles, les associations qui ont une activité économique et où le pouvoir dans les entreprises appartient aux personnes. Alors que l'économie solidaire, c'est le double titre du ministre Benoît Hamon actuellement, il s'agit plutôt d'entreprises de capitaux qui ont pour objectif de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux.
L'économie sociale est donc née, le terme économie sociale est donc né dans un univers de pensée idéologique qui est celui du christianisme social, d'une pensée, on va dire, des élites inquiètes face à ce paupérisme dont on parlait il y a un instant. Mais en réalité, cette économie sociale en tant que concept a une histoire qui va la dégager de cette origine-là. Parce qu'il faut sans doute, quand on parle d'économie sociale, tout de suite, avant de parler de solidaire, il faut sans doute évoquer un deuxième nom. Si l'invention du mot, c'est Le Play, sa popularisation, c'est Charles Gide. Charles Gide qui va, dans les années 1890 et 1900, se faire le grand propagandiste de l'économie sociale, c'est-à-dire de l'association des coopératives, des mutuelles, d'une logique économique qui soit complètement différente.
En cherchant une troisième voie entre le capitalisme pur et dur et le socialisme rêvé.
Charles Gide, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'économie politique. Il a fait un grand manuel d'économie politique. Il explique à un moment donné qu'il faut passer à ce qu'il appelle l'économie sociale, ou ce que Le Play a appelé l'économie sociale. Sa grande idée, c'est que l'économie politique, c'est pour lui la science des richesses, et il faut travailler dans la direction d'une science de la paix sociale et de la vie heureuse. Autrement dit, Charles Gide va essayer de conduire l'économie sociale en direction de quelque chose qui est plus de la base que du sommet, au sens où il invite le monde du travail à se prendre en charge lui-même.
Nous allons tout à l'heure voir de près ce personnage quelque peu oublié qui mérite d'être exhumé, Charles Gide. Mais il faut que nous revenions, Stéphane Gacon, d'abord aux origines même de cette notion d'économie sociale qui n'a pas perdu de sa vitalité aujourd'hui, c'est le thème de cette conversation, en évoquant les pionniers. En particulier, il faut faire un sort, évidemment, aux Britanniques. Nous allons nous concentrer plutôt sur la France, mais il y a un grand personnage qui a beaucoup inspiré la pensée française dans ce domaine, c'est Robert Owen. Robert Owen, et pour le rencontrer d'emblée, je vais vous faire écouter un extrait de son livre de 1813 qui s'appelait « Nouveau regard sur la société ». Cet entrepreneur, ce self-made man, propose un programme assez enchanteur qui lui paraît pouvoir définir à l'avance l'efficacité de l'économie sociale. C'est une lecture sur France Culture le 8 janvier 2004 par Sarah Chaumette.
Un monde où le mensonge sous aucune forme n'aura plus de raison d'être. Un monde où l'argent n'aura plus aucune influence, où la pauvreté et l'inhumanité seront inconnues. Un monde où tous les biens seront produits en abondance. Un monde où l'esclavage et la servitude n'existeront plus, mais où la plus grande liberté se conciliera avec l'union la plus étroite. Union tissée par les liens puissants de l'intérêt et les fils de soie de l'amour. Un monde où de l'amour naîtra un bonheur exquis que n'assombrira aucune misère. Un monde où l'amour et la raison présideront avec sagesse aux destinées de la race humaine. Un monde où le travail pénible ne sera plus nécessaire et où la production de la richesse sera une source perpétuelle de plaisir et de joie. Un monde dont seront bannies les mauvaises passions. Un monde où l'on n'entendra plus ni louanges ni blâmes, où personne ne désirera plus se distinguer des autres que par la plus grande somme de bonheur général que, par ses forces naturelles, il pourra donner à la grande famille humaine. Un monde, en un mot, où dès la seconde génération, il n'existera plus ni ignorance, ni pauvreté, ni charité, où la maladie et la misère n'auront presque plus de place, où la guerre n'aura plus de nom, et où la religion, l'amour ou l'argent ne sépareront plus l'homme de l'homme et ne créeront plus d'antagonisme dans aucune portion de l'humanité.
Stéphane Gacon, on ne peut pas dire malheureusement que cette prévision assez idyllique ait été confirmée par les deux siècles ultérieurs, mais il y a néanmoins l'esquisse d'un certain nombre de progrès que nous avons connus. Et ce personnage, Owen, mérite d'être restitué pour nos auditeurs.
Le personnage d'Owen est un personnage extrêmement important pour notre histoire de l'économie sociale, même si la notion d'économie sociale est donc complètement anachronique quand on parle d'Owen. Owen appartient à cette famille que l'on qualifie généralement de socialiste utopiste, mais à l'origine, il s'agit d'un entrepreneur ou d'un patron d'entreprise. Il avait repris la suite de son beau-père, un New Lanark, au sud de Glasgow, dans une filature de coton. Quand il s'est trouvé confronté à la situation économique et sociale de son entreprise, il a très tôt eu conscience qu'il fallait améliorer la condition de ses ouvriers. Et il va donc, dans une logique qui pourrait nous sembler paternaliste au sens plus moderne du terme, il a mis en place un certain nombre de services sociaux pour ses employés, des logements. Il a justement commencé à développer des systèmes d'association de ses ouvriers à leur propre vie quotidienne, par exemple la mise en place d'un économat ou des choses de cette nature-là.
On est à l'aube de la révolution industrielle.
On est au début du 19e siècle. C'est dans les années 1810-1820 que l'entreprise va connaître sa prospérité dans un cadre un tout petit peu original. Il faut dire que New Lanark va devenir une sorte d'entreprise modèle et de toute l'Europe, on va voir affluer des gens qui vont venir observer cette très étrange façon de fonctionner. Alors, on n'est pas dans la coopération, mais partant de cette expérience très particulière, ce patron va commencer à réfléchir aux méfaits de l'industrialisation et à des solutions telles que celles que vous avez pu entendre il y a un instant, en tout cas à imaginer une société meilleure. Ces théories vont le conduire à franchir l'Atlantique, comme beaucoup de gens le feront après lui, pour essayer de tenter une expérience justement d'association, quelque chose qui préfigurerait des coopératives, une expérience qui va s'appeler New Harmony, qui va échouer, comme beaucoup de ces expériences de société idéale, finalement, en ces débuts de 19e siècle.
Projeté dans le nouveau monde, dans le nouveau monde.
Franchir l'Atlantique vers les États-Unis, c'était aller vers le nouveau monde, donc au sens réel et figuré, c'est-à-dire se projeter dans une sorte d'avenir, les grands espaces vierges qu'il faut peupler de rêves réalisés, quelque chose comme ça.
Il y aura aussi l'Icarie, par exemple, de Cabet.
Et puis les expériences fourriéristes qui se sont toutes situées aux États-Unis.
Pourquoi ça a raté d'ailleurs New Harmony avec ce beau nom ?
Il y a deux raisons majeures qui expliquent l'échec de ces entreprises. C'est d'abord une question d'argent et puis ensuite une question d'organisation humaine, c'est-à-dire de relations humaines au sein de ces affaires.
Néanmoins, cette expérience de Owen est essentielle, vous le disiez.
Elle est essentielle parce que quand il rentre en Angleterre, en Grande-Bretagne, il va de façon très pratique et concrète s'atteler à la mise en place d'associations ouvrières qui préfigurent en quelque sorte les coopératives qu'on verra apparaître au cours du XIXe siècle. C'est une sorte de fondateur. Il incite à l'association ouvrière et il cherche à obtenir une législation qui favorise cette association ouvrière.
L'expérience la plus connue, qui est fille de l'enseignement et de la réflexion et de la pratique d'Owen, ce sont les pionniers de Rochdale, ces 28 ouvriers tisserands qui, en 1844, décident de s'associer pour acheter à bas prix et sans intermédiaire des produits alimentaires, des objets de consommation courante. Avec pour nous l'occasion de distinguer les coopératives de consommation d'un côté et d'autre part les coopératives de production. C'est une distinction que nous allons voir parcourir l'ensemble des décennies et des siècles qui ont suivi.
L'économie sociale est quelque chose de beaucoup plus large d'ailleurs que le monde coopératif. Il faudrait ajouter le monde des mutuelles et puis d'un certain nombre d'autres associations d'intérêt public, on pourrait dire aujourd'hui. Mais évidemment, notre propos va surtout se centrer sur les coopératives. Alors, les coopératives de consommation, l'expérience de Rochdale n'est sans doute pas la première en Grande-Bretagne ni même en Europe, mais c'est une expérience fondatrice ou en tout cas une sorte de modèle qui va s'imposer et qui va en quelque sorte rayonner dans tout le monde de la coopération de consommation jusqu'à nos jours. Et puis même dans le monde de la coopération en général. Tout simplement parce que les principes sont extrêmement simples. Ce sont des ouvriers qui réclament une amélioration de leur situation salariale. Leur salaire est insuffisant. Ils n'obtiennent pas gain de cause. Pour échapper en quelque sorte à l'emprise du patron, ils décident de s'associer, comme vous le disiez, pour subvenir à leurs besoins alimentaires, vestimentaires. Et ils s'associent. Et donc, à partir de là, ils se donnent des règles de fonctionnement qui vont être des règles de fonctionnement qui seront sans cesse reprises. L'idée, c'est qu'on apporte chacun sa part de capital dans l'affaire et on discute des affaires collectives selon le principe qu'un homme vaut une voix. Le principe subsidiaire, en quelque sorte, de l'association de Rochdale, c'est que, ma foi, quiconque veut rejoindre l'association peut le faire.
L'ouverture, c'est très important.
L'ouverture, c'est cette idée d'ouverture, quelle que soit d'ailleurs l'appartenance sociale ou syndicale ou religieuse. On peut donc rejoindre l'association. Cette association va avoir une grande postérité puisque, ma foi, il y a plus de 10 000 sociétaires à la fin du siècle en Grande-Bretagne.
En France, on regarde beaucoup vers Rochdale. Un des signes, c'est frappant, c'est que dans le livre de Bruno, G. Bruno, vous savez, Madame Fouillet, qui a été l'auteur de cet immense best-seller, Le Tour de France par deux enfants, elle a aussi publié un livre de lecture courante dans les années 1880, où elle nous donne ce dialogue avec une enfant aimée, une jeune fille, qui pose une question à son maître, Monsieur Edmond, et Monsieur Edmond répond ceci à la question « Qu'est-ce que Rochdale, monsieur ?»« C'est une ville manufacturière de l'Angleterre. Son industrie consiste principalement en fabrique de fils et de tissus de coton. » En 1844, il y eut une longue grève de tisserands en laine. Après avoir beaucoup lutté, sans obtenir une augmentation de salaire suffisante, 28 ouvriers, plus courageux et plus intelligents que leurs camarades, résolurent de mettre en commun leurs efforts. Ils voulaient sortir de la misère par un moyen moins hasardeux que les grèves. Cette formule est très importante, puisque déjà on se situe à distance du combat social ordinaire. Car mes enfants, c'est toujours M. Edmond qui parle, si les grèves ont été parfois utiles, souvent aussi, elles ont été désastreuses et ont dégénéré en violence. L'union fait la force, se dirent les ouvriers. Nous ne sommes pas bien nombreux, mais si nous restons toujours unis et si nous respectons toujours la justice, nous deviendrons forts. Au lieu de nous coaliser contre les patrons, associons-nous pour nous passer d'eux et pour nous aider les uns et les autres. Amitié entre nous et équité pour tous. Voilà notre devise. Nous irons en avant, montrant aux autres le chemin, comme les pionniers de l'Amérique. Donc une présence en France, même sur le continent, de cet exemple de Rochdale.
Ce qui est important, c'est qu'on est dans les années 1870, c'est-à-dire au lendemain de la Commune, dans une période qui est une période aussi, c'est le début de la Grande Dépression, justement la question sociale se pose de façon extrêmement aiguë, et les Républicains vont chercher des solutions à cette question sociale, s'inquiètent de la montée en puissance de la tension et de la renaissance du socialisme. Et donc le discours là, qui est adressé à ces petits-enfants est extrêmement révélateur d'une certaine pensée républicaine de cette époque.
Mais avant d'en venir à la Troisième République, il faut s'attarder un instant sur la seconde, et même à partir de 1830, les deux dates charnières sont les deux révolutions, de 1830 et de 1848. 1848 qui voit fleurir les projets, en particulier autour des socialistes dits utopistes, par exemple Charles Fourier, qui est un des maîtres de cette économie sociale.
Les années 1830-1840 sont un moment d'intense réflexion sur les conséquences des débuts de l'industrialisation. Et partant de là, il y a effectivement sur le continent un certain nombre de pensées qui émergent, celles de Fourier, celles de Proudhon, celles de Bûcher, etc. Ces pensées vont sans doute nourrir des expériences pratiques. Bon, j'aurais envie de dire que tous ceux qui vont se lancer dans des associations ouvrières n'ont pas forcément lu ces grands théoriciens.
Mais c'est dans l'air du temps.
C'est dans l'air du temps. Il y a une réflexion et il y a une pratique. Cela donne des expériences qui sont extrêmement intéressantes. On évoquait tout à l'heure le début de la coopération, mais je retiens mon mot parce qu'en réalité, c'est un terme qu'on n'utilise pas ou très peu dans ces années 1830-1840, on lui préfère le mot « association ». Il faudrait parler de l'associationnisme des années 1830 et 1840. En France, par exemple, l'une des premières expériences coopératives associationnistes importantes, c'est une expérience lyonnaise dans la ville des Canuts. On est en 1835 et c'est en 1835 que deux hommes, Michel Derion et Joseph Régnier, fondent une épicerie qui s'appelle le commerce véridique et social, qui a donc pour objectif d'essayer de se débarrasser de ces intermédiaires parasites. Et on est ici dans une réflexion qui est tout à fait dans le sillage de la pensée de Fourier, qui lui-même avait eu une expérience lyonnaise et qui a construit sa théorie autour du commerce qui est un peu parasite dans sa conception de la société.
Sans succès pour Fourier, il avait perdu beaucoup d'argent.
Il avait perdu beaucoup d'argent, ce qui a sans doute contribué à nourrir sa pensée critique. Donc le commerce véridique et social est une expérience qui va avoir un certain succès. Très honnêtement, l'entreprise va cesser en 1838, parce qu'il y a justement une résistance du commerce privé. Et puis, il y a aussi un contexte économique qui est celui d'une crise qui rend difficile la pérennité. Mais voilà donc un exemple de ces expériences françaises pionnières. L'associationnisme, c'est toute une vague de formations, d'entreprises, d'associations qui vont se développer dans les années 1830 et 1840. Et effectivement, autour de 1848, il va se passer des choses extrêmement importantes. Peut-être que le nom qu'il faudrait citer, c'est celui de Philippe Bûcher, qui passe pour être le socialiste chrétien, puisqu'on est dans une époque où le christianisme reste encore extrêmement influent. La grande époque des années 40 et 48 est sous l'égide de la fraternité, donc la dimension chrétienne n'est absolument pas absente de cette pensée sociale. Philippe Bûcher veut faire le lien entre socialisme et christianisme. Il va théoriser ça dans un certain nombre d'ouvrages, mais c'est surtout l'homme d'expérience concrète.
Il a son journal L'Atelier qui a une certaine influence.
La dimension concrète de Bûcher, c'est à la fois la création d'un certain nombre d'associations. Dès 1830, il fonde des associations. L'une des premières est une association de menuisiers. Et puis, surtout, il va fonder une association qui reste dans l'histoire de la coopération, une association mythique ou fondatrice. C'est l'Association des bijoutiers en doré, qui est fondée en 1834, qui regroupe quelques ouvriers. On est dans le domaine des ouvriers de métier. Ces ouvriers vont donc mettre en commun leurs outils, vont mettre en commun leurs projets, vont donc s'associer et vont se partager les bénéfices de leur entreprise.
Là, on est passé de la coopération de consommation à la coopération de production.
ces années 40 sont des années où on voit se développer les deux types de coopération. Et effectivement, la coopération de production est extrêmement importante dans ces années 1840. Vous évoquiez l'atelier il y a un instant, c'est-à-dire le journal qui a été fondé par Bucher en 1840. Ce journal qui va avoir une dizaine d'années de vie, il va être publié jusqu'en 1850, est un journal qui est écrit par des ouvriers, c'est son sous-titre. Eh bien, va se faire ce journal le propagandiste de l'association. Et la grande idée, c'est que finalement, l'association doit permettre à l'ouvrier de s'émanciper des dominations qui pèsent sur lui, et en particulier donc du patronat. Donc c'est un appel à une sorte de généralisation de l'association pour remplacer le système capitaliste tel qu'il s'est mis en place.
Bucher est d'ailleurs très, très clair dans ses écrits. Il nous dit, à propos des principes de la coopération de production, il nous dit « Dans l'association que je propose, les hommes associent leur travail et non leurs capitaux. » Aujourd'hui, ce propos garde toute sa force. C'est un contrat par lequel les travailleurs prennent un double engagement. Premièrement, de constituer un capital commun qui sera l'instrument de travail, mais qui restera inaliénable. Il y a donc ce qu'on appellerait aujourd'hui une impartageabilité des réserves. Et un capital qui devra toujours croître à l'aide de prélèvements annuels opérés sur les bénéfices. Et deuxièmement, d'unir leurs efforts pour faire valoir ce capital de leur travail sous la direction d'une gérance nommée par eux dans l'intérêt de tous. À ces devoirs, les associés répondent leurs droits, qui consistent à recevoir 1. Le salaire suffisant en usage dans la profession et dans le pays, 2. Une part dans les bénéfices proportionnels au travail accompli par chacun.
La grande idée, c'est en réalité de faire disparaître le salariat au sens de l'opposition entre le capital et le travail. Elle existe dans le système libéral qui s'est imposé.
Donc c'est un temps dans ce champ de l'économie sociale, même si le mot, encore une fois, est un peu anachronique, la chose précède le vocable, c'est un temps d'effervescence, une effervescence qui va continuer un certain temps sous le Second Empire, mais parmi évidemment une atmosphère de méfiance de la part du gouvernement et parfois de répression. Stéphane Gacon.
Le Second Empire est un moment paradoxal, si on peut exprimer les choses de cette façon-là. Ce qu'on retient souvent, en termes d'expérience à propos du Second Empire, c'est l'expérience du familistère de Guise, c'est-à-dire l'expérience de Godin. Parce que Godin avait, Jean-Baptiste Godin avait fondé en 1846, à Guise, dans l'Aisne, une fabrique de poêle en fonte. Et il a décidé d'organiser cette entreprise sous la forme de ce qu'il a appelé le familistère. Cette expérience, elle est datée du Second Empire, parce que c'est dans les années 1850 et 1870 que cette entreprise va prendre son ampleur.
Appelée à un grand succès et une longue durée.
Appelée à un grand succès et une longue durée, puisque l'association... Enfin, pour reprendre les choses à la base, Godin décide de... Dans un esprit qui est un esprit fourriériste, c'est quelqu'un qui a lu Charles Fourier, c'est quelqu'un qui est donc un grand admirateur de cette théorie qui tourne autour de cette association dans le cadre de ce que Fourier appelle le phalanstère. Il est donc convaincu qu'il faut améliorer la condition sociale de ses ouvriers pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales et morales. Il vient lui-même du monde ouvrier. Et il décide donc, autour de son usine de poêle, de mettre en place ce qu'il appelle un palais social, c'est-à-dire un endroit qui serait un lieu de logement collectif, par opposition sans doute à ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises paternalistes de la même époque, où on considère que la famille, dans le cadre de maisons individuelles, doit être le cœur de la société ouvrière. Lui, il pense que la vie doit être collective, c'est-à-dire que, ma foi, on doit vivre dans des appartements séparés, mais qu'on peut partager l'alimentation, qu'on peut partager les moments de fête, qu'il doit y avoir une convivialité là autour.
C'est déjà le kibbutz israélien, ça.
On est dans quelque chose qui fait penser à ça, effectivement. Pour être précis, Godin va décider progressivement d'associer ses ouvriers à la gestion de l'entreprise. Et même à partir de 1880, il va leur permettre de devenir, ma foi, propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise. Et à sa mort, en 1888, il va leur léguer cette entreprise, qui va devenir une association coopérative. Et comme vous le disiez, cette association coopérative va avoir une longue existence, puisqu'elle cessera de fonctionner, l'association ouvrière cessera de fonctionner en 1968.
Mais on peut encore visiter.
On peut encore visiter les bâtiments magnifiques qui ont été construits à ce moment-là.
Alors pourquoi disiez-vous que c'était paradoxal ?
Alors, parce que cette entreprise qui incarne en quelque sorte la coopération de l'époque du Second Empire, elle relève d'une logique qui n'est pas celle de l'empereur, qui n'est pas celle des dirigeants politiques de l'époque.
L'empereur qui avait publié un livre qui s'appelait « De l'extinction du paupérisme ». Ses adversaires avaient ricané en disant qu'il fallait ajouter « de l'extinction du paupérisme » après 6 heures du soir.
L'idée, c'est simplement que Napoléon III a eu des rapports très complexes avec le monde ouvrier. Après le coup d'État, il était convaincu que les associations étaient des lieux où allaient, grandir la subversion et la contestation au régime. Mais assez rapidement, il va prendre conscience, sans doute dans la logique qui était celle qu'il avait développée dans son livre, qu'il pouvait s'appuyer sur le monde ouvrier s'il l'encadrait. Et il va se mettre à légiférer pour faciliter l'association. Il y a un décret de mars 1852 sur les sociétés de secours mutuels. Parce que le secours mutuel est quelque chose d'extrêmement important. Il faut apprendre aux ouvriers à se prendre en charge, à épargner pour les moments qui sont difficiles, pour les coups du sort. Et puis, la grande loi du régime, c'est la loi de 1867, à la fin du régime, qui est une loi qui, sur les sociétés commerciales, qui est une loi qui va faciliter la constitution des coopératives. En dehors de cela, le Second Empire, c'est, de mon point de vue, au moins deux choses. D'une part, c'est le fait que l'économie sociale est d'abord une affaire des élites sociales qui s'inquiètent de la menace du peuple. Et en ce sens-là, on peut s'interroger sur ce que sont les projets sociaux de Napoléon III. De quelle nature sont-ils ? S'ils relèvent de cette pensée des élites qui cherchent des solutions pour apaiser le climat social. Et donc, partant de là, ce qu'on observe, c'est le glissement de logiques qui sont des logiques de solidarité, de charité, qui inspirent le christianisme social depuis très longtemps, vers des choses qui sont plus rationnelles. Ce qu'invente Le Play, c'est, à partir de l'observation du monde ouvrier, c'est des solutions qui soient des solutions plus scientifiques. Quand on dit qu'il est le père de la sociologie, c'est qu'en gros, il fait la science de la société pour trouver des solutions aux problèmes sociaux, et en particulier à l'affrontement social.
Science tournée vers l'action.
Une science tournée vers l'action, et l'action pour Le Play, c'est l'économie sociale. Et dans la grande exposition universelle de 1867, dont il va être le commissaire, il va plaider pour l'existence d'une section d'économie sociale, dans laquelle il va y avoir énormément d'expériences qui vont être présentées, mais Charles Gide dira plus tard que ce sont essentiellement des expériences patronales, c'est-à-dire des patrons qui mettent modèle en scène, et en particulier le grand patron paternaliste du Second Empire, c'est Eugène Schneider.
Qu'on appelle généralement Schneider, qui est président du corps législatif.
Voilà, qui est très très proche de l'empereur. Hein. Et donc, on est dans ce glissement de la charité à l'économie sociale, donc quelque chose de plus scientifique et rationnel à l'époque de l'émergence de la pensée scientifique moderne.
Hein. Plus intéressé en même temps, voilà. Plus directement intéressé.
Et très intéressé. C'est le temps des ingénieurs. C'est le grand homme de l'économie sociale appliquée, c'est Émile Cheysson, qui va donc être l'un des directeurs de l'usine du Creusot.
Donc Saint-Simon l'emporte plutôt sur Fourier, malgré l'apparence.
Tout à fait. Très, très clairement, dans cette logique qui est celle de Le Play. Hein. Ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution importante au cours du Second Empire ne vient pas du sommet, c'est-à-dire ne vient pas de l'empereur et des cercles qui l'entourent. Dans le monde des associations, il se passe quelque chose d'extrêmement important. À nouveau, en 1867, disent la plupart des auteurs, André Guélin, qui reprend sans doute Jean Gaumont, qui a publié dans les années 20 une grande histoire de la coopération extrêmement documentée. Et qu'est-ce qu'ils expliquent ? C'est qu'en 1867, l'empereur, et là aussi se trouve le paradoxe, à un moment donné où il se prépare à adopter la grande loi qui favorisera la mise en place des coopératives, eh bien, il dissout le journal qui avait été fondé par l'un des disciples d'Étienne Cabet, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais l'homme de l'Icarie, qui s'appelle Pierre Bellus, qui avait été à l'origine d'une première société de crédit au travail, qui avait été fondée en 1863. Et Bellus avait fondé un journal qui s'appelait « L'Association ». Et ce journal, l'Association, il est saisi en 1867. Immédiatement, renaît un nouveau journal, et ce journal s'appelle la Coopération. Et donc, on passe de l'Association à la Coopération. C'est le moment où le terme, où la notion de coopération s'impose.
Mutation sémantique importante.
Il y a une mutation sémantique qui est importante, mais qui recouvre quelque chose. On est à un moment qui est aussi un moment de recomposition du mouvement ouvrier. C'est quelques années après la naissance de l'Association internationale du travail, en 1864. Elle tient son premier congrès, l'AIT, à Genève, en 1866. Et la question des coopératives est évoquée. Et donc, on passe de quelque chose qui serait de l'ordre de l'association, qui est une association d'individus, donc de pratiques qui seraient de pratiques communautaires, à quelque chose qui serait des pratiques davantage contractuelles, association à coopération.
Et c'est cela qui va marquer l'évolution de cette économie sociale à quoi nous consacrons ce matin, Stéphane Gacon, notre émission, sous la Troisième République, avec ce personnage majeur que représente Charles Gide, sur lequel je voudrais que nous attardions un moment. Charles Gide, qui est l'oncle d'André Gide, est marqué par le protestantisme. Et pour le présenter, écoutons cet extrait d'une conférence qui lui est consacrée par Georges Lasserre, professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Paris. C'est une conférence qui est prononcée le 1er décembre 1961 au Collège de France.
Il était, selon les termes d'Oléance, hautain avec les puissants, d'une indifférence méprisante, et d'une impertinence glaciale envers les flamboyants. Mais lorsqu'il était avec des ouvriers, avec les militants coopérateurs, il supportait amicalement de longues réunions, des discussions parfois oiseuses, des opinions parfois superficielles ou peu raisonnables, et jamais ne semblait s'ennuyer. Il a dégelé l'économie politique. Il l'a étudiée autrement que dans les marchandises, l'argent, les capitaux. Il l'a étudiée dans les hommes. Et pas seulement dans les individus, dans les groupes, dans les associations. Il ne l'a pas limitée à l'économie pure, mais il y a fait pénétrer la morale. Il a parlé du grand dégel, du feun qui fait fondre les vieilles doctrines. Et il a largement contribué à ce dégel de son époque. Et cela parce que il a fait intervenir deux choses que trop d'économistes avant lui tenaient à l'écart. Il a fait intervenir son cœur, il a fait intervenir sa conscience. Les formes les plus élevées de cette morale de la solidarité, il les trouvait dans l'association volontaire qui prend pour devise « chacun pour tous et tous pour chacun ». Et c'était la mutualité et c'était la coopération où il voyait la meilleure réalisation, la meilleure concrétisation de cette solidarité volontaire. D'ailleurs, il ne se limitait pas à cette idée de la solidarité. Il sentait et il montrait très bien que la solidarité exige la justice, sinon elle peut être une duperie, et qu'elle doit se compléter de l'amour plus loin qui va au-delà et plus loin que la solidarité elle-même. Et voici par exemple ce qu'il disait dans la préface à la dernière édition de ses principes d'économie politique. Si nous avons cherché à déceler des injustices trop facilement acceptées, je crois pouvoir dire qu'on ne trouvera pas dans ce livre un mot de nature à exciter la haine, même contre ceux qui profitent de ces injustices. car la doctrine de la solidarité nous enseigne que, si grands que puissent être les abus qui résultent du régime économique actuel, tous, y compris parfois les victimes, nous avons une certaine part de responsabilité.
L'influence de Charles Gide dans son temps a été considérable. Il a vécu entre 1847 et 1932, a été professeur dans plusieurs universités et finalement au Collège de France. Son manifeste principal s'appelle « Ni révolté, ni satisfait ». Les choses sont assez clairement dites.
Le personnage de Charles Gide est un personnage central parce qu'il va se faire l'apôtre, si je peux utiliser cette formule, de la coopération. Et en particulier de la coopération de consommation. Charles Gide, c'est un moment sensible de l'évolution du christianisme social. Dans les années 1880-90, ce christianisme social va évoluer pour une partie vers la démocratie sociale. On est dans un contexte qui s'y prête, c'est celui du côté catholique du ralliement à la République. C'est en 1891 que le pape Léon XIII va publier son encyclique « Rerum Novarum ». Ce qui va engager les catholiques à aller dans la direction de la démocratie chrétienne. La grande figure, c'est celle de Marc Sangnier, hein, qui va fonder le Sillon en 1894. Et le Sillon, cette association qui cherche à rapprocher la République et le catholicisme, les catholiques et les ouvriers, va être à l'origine d'un grand nombre d'associations ouvrières et en particulier de coopératives.
Ça, c'est le côté catholique.
Donc ça, c'est le côté catholique. Mais parallèlement, le monde protestant est extrêmement actif dans ce domaine-là. On pourrait presque résumer les choses, mais c'est un peu rapide sans doute, en disant que le point d'origine de la révolution du christianisme social démocrate, c'est à Nîmes qu'elle se situe, cette origine.
Parce qu'il a enseigné dans la région.
Il a enseigné à Montpellier. Mais c'est à Nîmes que deux hommes, qui s'appellent Auguste Favre et Édouard de Boives, vont fonder une coopérative qui va être à l'origine d'un grand mouvement fédérateur. Ils fondent cette coopérative dans les années 1880 et ils pensent qu'il faut donc fédérer les efforts.
Et ça marche.
Et ça marche, puisqu'en 1885 se tient à Paris le premier congrès de l'Union des coopératives. Et Charles Gide, qui est professeur d'économie politique à Montpellier, va rejoindre ce mouvement. Il est de sensibilité protestante, il est protestant, et dans ce petit milieu, il se reconnaît, et il va donc, en s'appuyant sur les expériences antérieures, en mettant justement en valeur l'expérience de Rochdale, qui lui semble l'expérience de référence, essayer de développer une doctrine économique qui serait une doctrine qui trouverait sa place, comme on l'a évoqué tout à l'heure, entre le libéralisme et le socialisme.
Il écrit ceci, « Qu'est-ce que le consommateur disent-ils les autres ?» Rien. Que doit-il être? Tout. L'ordre social actuel est organisé en vue de la production et nullement en vue de la consommation. Ou si vous aimez mieux, en vue du gain individuel et nullement en vue des besoins sociaux. La pyramide qui était posée sur la pointe, ce qui donnait un équilibre instable, sera retournée sans dessus-dessous et assise désormais sur sa base, ce qui donnera un équilibre stable. La production, au lieu d'être maîtresse du marché, reviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, servante, obéissant docilement aux ordres de la consommation. Les choses sont dites et bien dites.
Il va se faire le promoteur pendant toute sa carrière de la coopérative de consommation. Il a un projet extrêmement ambitieux qu'on pourrait penser utopique au sens fertile du terme, le projet d'une république coopérative. Il veut en finir avec le libéralisme et il explique que pour en finir avec le libéralisme, on peut commencer par fonder des coopératives de consommation. Il pense que tout citoyen deviendra un jour ou peut devenir un sociétaire d'une coopérative de consommation. Ensuite, dit-il, deuxième temps, les coopératives de consommation se fédéreront et susciteront des coopératives de production, d'abord industrielles, puis ensuite agricoles. Et il en sera fini du système d'entreprises privées capitalistes.
C'est vraiment le rêve d'un moyen terme entre le capitalisme et le socialisme, plus exactement entre entre le libéralisme et l'étatisme. Mais on ne peut pas minimiser son influence. Ces principes d'économie politique sont traduits dans un livre traduit dans une vingtaine de langues et sa célèbre histoire des doctrines économiques qu'il signe avec un autre grand protestant, plus jeune que lui, Charles Rist, a été également un immense succès, a eu une grande influence.
L'influence de Charles Gide et de ce milieu protestant, elle est d'autant plus grande qu'il va y avoir même deux rencontres majeures dans cette fin du XIXe siècle. D'une part, la rencontre de Gide avec les radicaux qui accèdent au pouvoir dans les années 1890 et qui sont à la recherche d'une solution à la question sociale.
En dehors du socialisme.
En dehors du socialisme, entre libéralisme et socialisme. Le grand nom qui évoque cette réflexion sociale des républicains radicaux, c'est le nom de Léon Bourgeois.
Qui a été président du Conseil, qui a été d'autre part un des grands apôtres de l'ordre international fondé sur une coopération, sur la Société des Nations. Léon Bourgeois, qui est d'autre part l'auteur d'un livre qui a eu beaucoup de succès à l'époque, qui s'efforce de donner les bases d'une doctrine radicale et qui s'appelle Solidarité. Un de ses disciples, un de ses élèves, qui s'inscrit directement dans sa suite, Émile Roche, qui a été longuement président du Conseil économique et social sous la 4e République, s'exprime de la sorte à propos de l'héritage de Léon Bourgeois. On est à la Tribune de Paris le 13 février 1952.
Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Si l'on voulait définir le solidarisme, Émile Roche, comment pourrait-on le faire ?
Eh bien, vous allez au-devant de ma pensée. Je voulais rappeler, au cours de cet entretien, je n'ai pas à dire ce qu'il a été pour la sécurité collective, je voulais rappeler les propos qu'il tenait en 1908, qu'en formulant la doctrine du Parti radical, il disait en quoi se résumait l'association. Écoutez-le. Je ne crois pas que le bien de la nation puisse se réaliser définitivement par la lutte des individus et des classes, pas plus que le bien de l'humanité par la lutte des nations. Je n'admets pas la prétendue liberté de l'exploitation de l'homme par l'homme. Je n'admets pas davantage un régime de liberté absolue de la concurrence qui permettrait indirectement à la pression financière d'abuser de sa force au détriment des plus faibles. L'homme n'est vraiment libre qu'après avoir payé sa dette à l'homme, la nation ne jouira de la paix qu'elle aura créé un ensemble complet d'assurances qui garantira tout individu contre les risques de la maladie, du chômage, des invalidités, de la vieillesse.
Émile Roche, là, n'est-ce pas, Stéphane Gacon, évoque également la mutualité, qui est un autre aspect de la réflexion sur l'économie sociale, à quoi nous consacrons cette émission ce matin. On est à distance de ce qu'a pu faire Bismarck en Allemagne, où c'est l'État qui a pris les assurances sociales en main dès ce moment-là.
La France avait un retard par rapport à cette question de la législation sociale. Les républicains, après tout, sont des libéraux. Et ils craignent qu'une législation trop rigoureuse entrave l'activité économique.
La plupart des républicains, pas
la
tous.
La plupart des républicains.
Vous voyez Clémenceau.
Oui, mais globalement, la réponse qui va être apportée à la question sociale par ces républicains radicaux, c'est de remettre la gestion de la question sociale entre les mains des associations, en particulier des mutuelles et des coopératives. Plutôt que de mettre en place un système public ou un système d'État de sécurité sociale, comme c'est déjà quasiment le cas dans l'Allemagne de cette époque, ils préfèrent mettre en place un système qui soit un système qui repose sur l'activité à la base et sur la solidarité.
Aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, nous sommes les héritiers des deux mouvements, puisqu'il y a à la fois les assurances sociales et des mutuelles spécifiques que nous connaissons, pour les enseignants, la MGEN, etc.
On est tout à fait dans cette logique actuellement. La deuxième chose qui rend l'influence de Charles Gide considérable, c'est sa rencontre sans doute avec le socialisme. Aussi paradoxal que ça puisse paraître pour quelqu'un qui avait justement une crainte, la montée en puissance du socialisme et qui construit sa doctrine en grande partie contre le socialisme, il va entrer en résonance avec le socialisme.
Jean Jaurès est son ami d'ailleurs.
Jean Jaurès est son ami et c'est un peu ce que je voulais dire en évoquant cette rencontre. Il aurait fallu dire qu'en 1895, l'Union coopérative qui avait été créée en 1885 avait connu une scission et qu'une partie des coopératives avait quitté le mouvement pour créer une bourse des coopératives socialistes. La question qui est au cœur de la querelle, c'est la question de la répartition des bénéfices. Dans la coopérative gidienne, dans le modèle Roche-Dalien, il y a une distribution des bénéfices entre les différents sociétaires. Les marxistes en particulier, autour de Jules Guesde, dans les années 1870-80, s'interrogent beaucoup sur ces coopératives qui seraient des outils qui contribueraient à détourner les ouvriers de la lutte sociale en faisant des propriétaires et des capitalistes qui toucheraient une part de bénéfices, donc quelque chose qui endormirait la lutte sociale. Jaurès s'interroge longtemps de son côté sur la pertinence de s'impliquer dans le milieu coopératif et c'est en 1895...
C'est le moment où de la grande grève de Carmaux, de celle des verriers qui suit la grande grève des mineurs.
Cette verrerie, elle va être reprise par les ouvriers dans des conditions qui sont celles d'une sorte de cotisation générale du milieu syndical et du milieu coopératif qui va apporter des fonds pour le rachat de cette entreprise qui sera ensuite gérée par son personnel.
Avec transfert à Albi, d'ailleurs, et Jean Jaurès prononce un grand discours qui est resté fameux pour le lancement de cette verrerie que les capitalistes voient évidemment avec beaucoup de condescendance et qu'ils pensent vouer à une vie très brève, mais qui a duré en fait jusqu'à la fin du XXe siècle, avant d'être racheté très tard par Saint-Gobain.
Le moment de la verrerie d'Albi est un moment extrêmement important pour Jean Jaurès, qui se rapproche de Gide. Les négociations vont déboucher sur la réunification du mouvement coopératif, des coopératives de consommation, qui va avoir lieu, cette réunification, en 1912.
Sur cette verrerie ouvrière d'Albi, ce reportage qui remonte au 7 avril 1967, un reportage de Jean-Paul Terret qui est diffusé dans le journal télévisé de Toulouse et qui montre à quel point cet événement a laissé longuement sa marque.
Vous n'avez aucune chance de voir cette action cotée en bourse, mais ce document marque la naissance en 1896 de la verrerie ouvrière d'Albi, une entreprise pas comme les autres puisqu'elle fonctionne depuis sa création en coopérative de production. Les ouvriers sociétaires possèdent des parts du capital. Activité principale, la fabrication des bouteilles d'assortiment, une fabrication dont les procédés ont nettement évolué.
Tout cela, monsieur Ramon, appartient à une époque bien révolue, je crois.
Oui, en effet, les bouteilles ne sont plus fabriquées de cette façon à la verrerie ouvrière depuis 1914.
Quel est le principe de fonctionnement de cette coopérative ?
La verrerie ouvrière est une coopérative ouvrière de production. Elle est administrée par un conseil d'administration formé de 8 administrateurs nommés parmi le personnel.
Et tout le personnel est sociétaire?
Le personnel peut devenir sociétaire au bout de 3 ans de présence.
Quelle est la devise de cette coopérative?
La devise de la coopérative, comme toutes les coopératives de production en général, est travail, capital, talent.
Monsieur Ramon, quel a été le rôle joué par Jean Jaurès dans la création de la coopérative d'Albi?
Jean Jaurès a contribué à la formation de la verrerie ouvrière et a fait beaucoup de propagande de façon à réunir les fonds et mettre la verrerie ouvrière en route.
En 1967, quel est le chiffre de votre personnel?
Actuellement, nous occupons 300 personnes, ouvriers et employés. La verrerie ouvrière, d'ailleurs, et à l'heure actuelle, pratiquement la seule verrerie fabriquant des bouteilles qui soit indépendante.
Ben, je suis rentré, moi, j'étais déjà jeune, j'avais 13 ans, je suis rentré en 1923 dans une coopérative. Quand on la prend à cœur, quoi, voyez, et bien, je sais pas quoi, on y va avec le sourire aux lèvres quand on va travailler, quoi, on n'est pas comme dans beaucoup de boîtes, quoi, j'ai entendu parler, quoi.
Quel est votre rôle ici, monsieur?
Je suis chef d'expédition par intérim.
Et vous êtes également membre du conseil d'administration?
Oui, monsieur.
Vous vous réunissez?
Tous les mois.
Tous les mois. Et vous discutez de quoi?
Eh bien, nous discutons d'ordre général. Premièrement, intérêt de l'usine naturellement, fabrication, expédition, vente, et tout ce qui se concerne la fabrication et la bonne marche de l'usine.
Et les discussions sont extrêmement libres?
Oui, très, très libres.
On y va chaque matin, le sourire aux lèvres. Je pense que Charles Fourier et Jean Jaurès auraient été tous les deux contents d'entendre cette formule, Stéphane Gacon.
La grande idée de Jaurès, finalement, c'est que la coopérative est un lieu d'éducation sociale, c'est-à-dire où, ma foi, l'homme peut s'élever vers quelque chose de plus grand en participant à sa vie quotidienne.
Il ne met pas les syndicats au-dessus des coopératives du tout.
Jaurès considère sans doute, à la différence de Guède, par exemple, qu'il n'y a pas de hiérarchie à établir entre partis, syndicats et coopératives, que chacun doit être un lieu où va se nourrir le combat politique.
Il a d'ailleurs plusieurs fois salué, je parle de Jaurès, l'expérience de Saint-Claude, qui mérite un instant l'attention.
L'expérience de Saint-Claude, qui aussi est souvent présentée comme un modèle du côté marxiste, aussi surprenant que ça puisse paraître. Parce que l'expérience de Saint-Claude est extrêmement spectaculaire.
Dans le Jura.
Cette Franche-Comté qui a une espèce de tradition associative qui est sans doute liée à son histoire, à sa géographie, à beaucoup d'éléments très caractéristiques de cette zone frontière aussi. Bon.
Proudhon, considérant Fourier, ce n'est pas mal.
Saint-Claude, avec une expérience très concrète, dans ce milieu qui est celui, le monde du diamant, des lapidaires et puis de la pipe, donc une vallée industrielle. Et c'est dans les années 1870 qu'une petite association, on va dire, de consommation se met en place entre quelques ouvriers qui va prendre de l'ampleur quand un militant socialiste qui s'appelle Henri Ponard va lui donner des statuts, va lui donner de l'importance. Cette coopérative de consommation va devenir très rapidement un succès, va faire beaucoup de bénéfices. Ces bénéfices vont être utilisés pour financer une maison du peuple. En 1889, on va mettre en place des bâtiments qui vont permettre d'accueillir des activités sociales, c'est-à-dire en particulier des cours, des activités culturelles, des activités qui sont des activités de solidarité avec un système mutuel. Ce qui se passe à Saint-Claude, c'est en quelque sorte la mise en place d'une sorte de microcosme social autour de l'alimentation. Va se développer toute une société qui se prend en charge, l'idée de Ponard étant ensuite d'essaimer, c'est-à-dire sur le modèle de Saint-Claude, que se développent d'autres coopératives qui se fédèrent entre elles. Donc une micro-société pour faire naître une société nouvelle.
Donc, tout cela est encore très vivant aujourd'hui, après tout le fait qu'on ait choisi en 2012 de donner à un ministère ce nom d'économie sociale et solidaire est assez représentatif d'une permanence et d'une vitalité qui nous a donné l'occasion ce matin, Stéphane Gacon, d'évoquer cette longue durée d'une histoire encore féconde. Vous avez publié à ce propos un article dans l'Histoire en octobre 2013 qui m'a donné le goût de vous inviter et qui s'appelle « La belle époque de l'économie sociale ». Je rappelle également votre livre important sur l'amnistie de la Commune à la guerre d'Algérie, publié en 2002 au Seuil, qui m'avait donné le plaisir de vous inviter, naguère. Sur notre sujet de l'économie sociale, deux livres importants. Naturellement, vous aurez une bibliographie plus complète sur notre site, comme d'habitude. Celui d'André Guélin, « L'invention de l'économie sociale, idées pratiques et imaginaires coopératifs et mutualistes dans la France du XIXe siècle », publié en 1987 et réédité en 1998 aux éditions Economica. Et puis le livre de Patricia Toucas-Truyenne, « Les coopérateurs, deux siècles de pratiques coopératives » aux éditions de l'Atelier en 2005. Je signale à propos de Charles Gide, c'est important, que ses œuvres complètes sont publiées, republiées depuis 1997 aux éditions de l'Harmattan avec en prime la biographie que lui a consacrée Marc Pénin, Charles Gide, « L'esprit critique ». Samedi prochain, nous parlerons, en allant beaucoup plus loin en arrière, nous parlerons de l'actualité de Démosthène et nous vous démontrerons que cette actualité est grande. Et pour cela, j'inviterai Patrice Brun. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, réalisée par Patrick Molinier, avec Pierre Mine à la prise de son, Véronique Jolivet pour les Archivina et le précieux concours des documentalistes de Radio France. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Dominique Rousset et ses invités pour l'économie en question.